C'est une entreprise de réunification du centrisme français, en premier lieu. C'est-à-dire que l'UDI, c'est le centre droit, c'est-à-dire les idées politiques du centre en étant alliées avec la droite, tandis que le MoDem de François Bayrou, c'est l'extrême centre, c'est-à-dire les mêmes idées politiques centristes, mais en étant non aligné, c'est-à-dire en étant allié à la carte avec la droite ou avec la gauche, selon les circonstances. Sur le fond des idées politiques, il faut bien comprendre que le cœur de la pensée centriste, c'est la recherche du juste milieu, du compromis, de l'équilibre, de la conciliation. Qu'il s'agisse par exemple du gouvernement, François Bayrou a fait campagne en 2007 sur un gouvernement d'union nationale, ou qu'il s'agisse de la politique concrète qui est conduite, puisque Jean-Louis Borloo a fait une table ronde typiquement centriste qu'on appelait le Grenelle de l'environnement, qui revenait finalement mettre tout le monde d'accord autour de la table sur la politique écologiste à conduire pour le pays.
Et qu'est-ce qui fait que cette alliance pourrait réussir ?
D'abord, c'est un détail, mais il a son importance. En termes de marketing politique, le nom « L'Alternative » est excellent. C'est-à-dire que le bon nom pour un parti politique, c'est quand il désigne précisément ce que vous voulez incarner. Ensuite, plus profondément, la crise actuelle de l'UMP, tiraillée par une guerre des chefs et par l'impossible succession de Nicolas Sarkozy, qui est par ailleurs à un stade de lepenisation avancée, confère la proposition de Jean-François Copé sur le droit du sol. Cette situation-là ouvre un boulevard à un positionnement qui soit de centre-droit et qui puisse récupérer en fait la droite modérée, totalement hostile à toute compromission avec le FN, qui représente quand même entre un tiers et 40% selon les sondages des sympathisants de l'UMP. Ce sont des gens qui refusent catégoriquement tout accord et toute compromission des idées avec le FN. À fur et à mesure que l'UMP se lepenise, c'est un vivier électoral pour l'Alternative. Par ailleurs, vous avez tout un électorat qui a voté François Hollande par rejet de Nicolas Sarkozy et qui, en 2007, avait voté Nicolas Sarkozy parce qu'ils estimaient que Ségolène Royal n'avait pas la compétence pour être présidente de la République. Donc cet électorat non aligné, il peut être grappillé tantôt par telle ou telle offre. C'est un électorat d'oiseaux migrateurs, en quelque sorte. C'est cet électorat qui avait fait la percée d'Europe Écologie. C'était cet électorat qui avait fait la percée de François Bayrou à la présidentielle de 2007. Cet électorat d'oiseaux migrateurs non aligné pourrait se poser au profit de l'Alternative en vue des européennes. Mais pour ça, ça suppose cependant d'aller assez loin dans un positionnement de fédéralisme européen. J'ignore à ce stade si l'Alternative ira jusqu'à défendre bec et ongle les États-Unis d'Europe.
Et quelles sont leurs valeurs communes et leurs divergences ?
Alors, il n'y a pas de divergence sur le fond. Les divergences sont toujours portées sur les choix d'alliance. À partir du moment où François Bayrou a renoncé à la position d'extrême-centre, il n'y a plus de divergence. Ces valeurs, c'est quoi ? C'est l'humanisme. Certains diraient le personnalisme démocrate chrétien de quelqu'un comme Étienne Borne. Ensuite, les valeurs de pacte républicain, ce qui sous-entend une absence totale de compromission avec le Front National et avec les idées des extrêmes, extrême-gauche et extrême-droite. Quand vous êtes centriste, vous rejetez les extrêmes, c'est viscéral. Ensuite, une économie sociale de marché, c'est-à-dire la réconciliation entre un système économique libéral et une volonté d'obtenir le progrès social. Donc, ni parti pris pour le capital, ni parti pris pour la lutte des classes, c'est concilié dans une économie sociale de marché, qui est assez proche d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église, quand on y réfléchit. Vous avez l'écologie, ça c'est un apport spécifique de Jean-Louis Borloo, parce que lui, il a commencé à Génération écologique, qui était un parti écologiste non aligné du tournant des années 90, cofondé par Jean-Louis Borloo, Brice Lalonde, Haroun Tazieff, Noël Mamère, etc. Et donc, vous avez l'écologie, mais une écologie qui est fondamentalement triste. C'est-à-dire, on met tous les acteurs autour d'une table pour faire de l'écologie par consensus de tous les acteurs. Vous avez un parti pris pour la société civile, c'est-à-dire les associations, les corps intermédiaires, etc. Ça, c'est un héritage de la démocratie chrétienne, d'ailleurs. Le fait d'être vraiment en faveur de plus de poids pour la société civile, c'est-à-dire les corps intermédiaires dans la doctrine de la démocratie chrétienne. Et donc, il y a une opportunité de prendre des positions qui peuvent être électoralement très percutantes parce que la droite s'est tellement déportée vers la lepenisation qu'il y a un espace en jachère pour l'Alternative.
Et vis-à-vis du PS, est-ce qu'ils essayent aussi de profiter des difficultés que rencontre en ce moment le PS ?
Bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, la crise de confiance profonde que traverse la gauche de gouvernement d'un côté et la lepenisation de la droite libère actuellement un espace pour une grande coalition qui irait en gros de la droite modérée jusqu'au centre-gauche déçu par François Hollande. Donc l'Alternative, pour peu que les positionnements pris soient vraiment percutants, peut vraiment créer la surprise pour les prochaines élections européennes. D'autant plus que l'électorat fédéraliste européen a tendance à se surmobiliser pour ce genre d'élection. Je pense que si l'Alternative va jusqu'à défendre bec et ongle les États-Unis d'Europe ils garantissent de faire au moins 12 points. S'ils ajoutent à ça des positionnements ciblés très percutants sur un certain nombre de thèmes pour lesquels l'UMP s'est complètement lepenisé, à mon avis, ils peuvent espérer 15, voire davantage, et taquiner les 20. Cependant, ça suppose d'arriver à être relativement pugnace dans la construction programmatique et doctrinale. C'est quelque chose de très difficile pour les centristes, traditionnellement, puisqu'ils fonctionnent par junte. En termes de gouvernance, c'est plus facile pour l'UMP parce que quand elle a un chef ou un directeur ou un secrétaire général, ils peuvent adopter tout seul n'importe quelle ligne et les troupes suivre. Chez les centristes, c'est plus difficile parce qu'ils fonctionnent non pas par arbitrage entre courants à chaque congrès comme le PS, non, ils fonctionnent par consensus, c'est-à-dire que finalement, en pratique, le cœur du pilotage du parti, ce sont les parlementaires à l'Assemblée, au Sénat et les députés européens. Et il faut qu'ils soient tous d'accord avec une position pour qu'elle soit adoptée, ce qui rend difficile d'adopter des positionnements particulièrement audacieux ou particulièrement pugnaces dans le débat électoral. C'est la principale difficulté finalement pour les centristes à l'avenir, c'est d'arriver à avoir une gouvernance ayant une efficacité permettant de tirer leur épingle du jeu.
Et concernant les municipales ?
Par définition, les élections municipales, c'est une addition d'élections locales avec des enjeux locaux et territoriaux. Certes, il y a en gros une prime à l'opposition, c'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir, vous faites un moins bon score national aux élections municipales, c'est classique. Pour autant, l'enjeu local reste déterminant. Donc, pour les centristes en particulier, vous allez avoir une sous-évocation des thématiques nationales parce que la plupart des élus centristes, pour ne pas dire tous, ont un ancrage territorial très fort avant d'avoir un ancrage national. Et donc, ils mèneront une campagne de défense des intérêts locaux et pas nécessairement une campagne sur des thématiques nationales. C'est exactement le contraire du FN qui, lui, ne saura que faire campagne sur des enjeux nationaux qu'il essaiera de décliner au niveau local. Donc, même au niveau local, le Front National vous parlera des immigrés, de l'insécurité liée aux immigrés, du chômage lié aux immigrés, des déficits liés aux immigrés, etc.
Et pour terminer, concernant les personnalités donc de François Bayrou et Jean-Louis Borloo, est-ce qu'ils peuvent vraiment se retrouver et pas au fil des mois se déchirer ?
Il y a une procédure pour ça, c'est la primaire. À partir du moment où il y a une primaire, pour désigner le candidat de l'alternative à la présidentielle, l'heure de l'affrontement est programmée et l'affrontement est codifié. C'est beaucoup plus sain qu'à l'UMP, où par contraste, faute de procédure équilibrée, programmée et claire, c'est le déchirement permanent.
Est-ce qu'ils ont les mêmes attentes vis-à-vis de 2017, par exemple ?
Il est clair que François Bayrou a très probablement la volonté d'être candidat de l'alternative à l'élection présidentielle. Jean-Louis Borloo, c'est beaucoup moins sûr parce que lui a un parti pris parfaitement assumé de stratégie parlementaire, c'est-à-dire avoir le groupe parlementaire le plus important au Parlement, plutôt qu'une stratégie présidentielle. C'est une vraie différence entre ces deux hommes. Encore une fois, Jean-Louis Borloo a une stratégie qui mise sur le Parlement, alors que François Bayrou a une stratégie qui mise sur l'élection présidentielle. Finalement, pour résumer, il y en a un qui vise Matignon et l'autre qui vise l'Élysée.